Bien sûr. Bon, je rappelle qu'on est sur Radio Libertaire 89.4, que nous avons fait une émission Faites-nous des chansons avec Nathalie Solange en régie, Claude Guéno au micro et les invités Gisèle Joly, Nadine Gel, Annie Papin, Francis Lafont, Jean-Pierre Pagliano, et que nous avons parlé de pas mal de choses et aussi de Claude Duntan. Voilà. On va essayer de repasser le petit extrait de l'émission que tu avais fait avec Claude sur France Culture en finale, parce que c'est vraiment intéressant de l'entendre, si on peut. Tu m'entends là ?
Et comment tu vois la suite, c'est-à-dire les albums de vus par tes petits-enfants, enfin les enfants de ces petits mouflets-là qui sont...
Ah ben, moi j'espère qu'ils auront autant de plaisir et autant d'émotion à revivre le passé, quoi que j'en ai aujourd'hui, moi, chaque fois que je me replonge, même si c'est un passé très récent. J'ai autant d'émotion à regarder une photo qui date de 1880, qui est de mon arrière-grand-père, que je regarde mon fils ou ma fille quand elle a 2 heures et qu'elle vient de naître, et que ça ressurgit en moi tout un tas d'émotions, de quelque chose de très prenant, et puis que j'ai essayé de garder comme ça en souvenir, peut-être un peu figé, sur une photo, mais toujours la même émotion.
Premier cheveu, première dent, premier pas, tiens, voilà maman. Dans la cour, on jouait aux billes ou au docteur avec les filles. Là, on est tous en rang d'oignons, c'est moi le petit au lorgnon. Photo d'école, le temps passe, où sont mes copains de la classe? Épais tonton, depuis longtemps, ne souffre plus du mal de dents. Il continue de jouer aux quilles dans mon album de famille.
Merci à tout le monde. Merci donc à Gisèle, Nadine, Annie, Francis, Jean-Pierre. Et nous passons la parole à l'émission Radio Cartable, la meilleure émission de Radio Libertaire. 89.4.
Merci.
Avec un blanc. Un petit blanc entre les deux, c'est ça. Ça me fait du vin d'Alsace.
Oui, merci pour le passage d'antenne. Effectivement, c'est l'heure de Radio Cartable sur 89.4 FM. Cette semaine, nous allons rediffuser 4 énigmes. Donc, les enfants, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez envie de jouer. Ce sera des devinettes. Un devinette sur un pays mystérieux, une devinette sur un personnage mystérieux, une devinette sur un bateau mystérieux et plein de devinettes sur des animaux en danger mystérieux. Voilà. Mais alors, pour pouvoir jouer, je vous conseille d'abord d'aller sur le site internet de Radio Cartable, voir l'onglet rubrique, nos rubriques. Et sur cet onglet, vous trouverez les questionnaires qui accompagnent chacune des énigmes, qui vous permettront d'écouter et de trouver plus facilement. Bonne écoute.
D'Ivry. Hello à tous nos auditeurs, my name is Moïse. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les dernières émissions de notre grand jeu, Les Pays Mystérieux.
My name is Zoé et avec Moïse.
Hello.
Azania.
Salut.
Et Mohand.
Salut tout le monde.
Nous vous avons préparé quelques devinettes sur notre dernier pays mystérieux d'Europe.
Tout le monde se rappelle de la règle du jeu ? Nous allons vous donner 5 indices que vous pourrez noter sur votre grille d'écoute.
Pour vous aider, vous pouvez bien sûr utiliser votre dictionnaire et une carte des pays d'Europe.
Nous allons commencer tout de suite par l'indice numéro 1. C'est une petite devinette mathématique.
Ah oui, Moïse, j'adore les mathématiques.
Du calme, Zoé. Tu peux aussi jouer dans le studio. Le résultat de notre opération vous donnera la densité de population de notre pays mystérieux.
Moïse, il faut peut-être rappeler une dernière fois ce qu'est la densité de population à nos auditeurs.
Monde, tout le monde sait que la densité de population est le nombre d'habitants par kilomètre carré. Bon, maintenant, laissez-moi donner ma devinette. La densité de population est un nombre à 3 chiffres, multiple de 10.
Un nombre à 3 chiffres, multiple de 10 ? Facile, Moïse. Cela se termine par 0 ou 5.
Je continue, Zoé. Écoute un peu. Les chiffres des dizaines et le double de 3. Le chiffre des dizaines et le double de 3.
Je sais, Moïse. Le double de 3, c'est bien sûr...
Et toi, Zoé ? Tous nos auditeurs sont capables de trouver le double de 3. Bon, je continue. Le chiffre des centaines est la moitié de 4.
J'ai trouvé, Moïse. La moitié de 4,
c'est... Zoé ! Arrête un peu. On va laisser un peu de musique à nos auditeurs pour trouver tout seul le résultat de notre devinette mathématique. C'est le moment de bien regarder votre carte de l'Europe. L'indice numéro 2 est une montagne de plus de 1300 mètres de hauteur.
Ce n'est pas bien haut, Azania.
Peut-être, Mohand, mais c'est tout de même le point culminant de notre pays mystérieux. Il se situe dans une région montagneuse au nord avec de très beaux lacs. Il paraît même qu'un monstre marin habite l'un de ces lacs.
Ça fait un peu peur ton histoire, Azania. Mais dans cette région, les gens savent bien s'amuser. Même s'ils écoutent parfois des instruments de musique un peu étonnants. Écoutez plutôt...
Je connais cet instrument, Azania. C'est la cornemuse.
Moi, je suis déjà allée dans notre pays mystérieux et j'ai dégusté une des spécialités culinaires. C'est notre troisième indice. Cela peut se manger dans la rue, pas besoin de fourchette ni d'assiette.
Tu me mets l'eau à la bouche, Zoé. Qu'est-ce que c'est ?
C'est un plat de poisson que l'on frit et que l'on sert avec des pommes de terre frites dans une barquette ou un cornet en papier. J'ai découvert cette spécialité lorsque j'ai visité la capitale de notre pays, il y a 2 ans. Cela s'appelle le fish and chips.
Miam, Zoé, ça a l'air délicieux. J'ai une idée. Si on demandait à Leslie de nous faire écouter un extrait de l'hymne national de notre pays, je suis sûre que cela aiderait beaucoup nos auditeurs. Et on pourrait manger un petit fish and chips en attendant.
C'est trop bon. Délicieux.
Cela s'appelle God Save the Queen. Je sais que Queen veut dire reine et c'est d'ailleurs notre 4e indice. Le personnage le plus célèbre de notre pays mystérieux est la reine Elisabeth II. Elle est reine depuis 1952 et fête cette année ses 90 ans.
Je l'ai déjà vue à la télé et dans des magazines. C'est une petite dame qui a toujours des chapeaux extravagants de couleurs assortis à ses tenues. Mais Zoé, la capitale de notre pays mystérieux est aussi renommée pour ses magnifiques monuments. Tu as dû admirer notre dernier indice lorsque tu es venu à cet endroit. Ce monument s'appelle Big Ben.
Ah, je connais aussi Big Ben. C'est une tour près de la Tamise, surmontée d'une énorme horloge qui sonne pour les événements importants.
Mouand, je crois que nos auditeurs ont assez d'indices. On leur laisse une dernière pause musicale d'un célèbre groupe des années 60 de notre pays mystérieux. On les appelle les Beatles.
Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. And all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor.
Et voilà, les pays mystérieux, c'est terminé. On espère qu'on vous a fait voyager.
Au revoir!
It's not the cowboys that are missing anymore. That problem was already old in 94. Don't be offended, this might seem a little wrong. The romance when I was 14 years old, and to my heroes that were dressed up in gold, only hoping one day I could be so bold. Where have all the gay guys gone?
So tell me, where have all the good guys, where have all Arden and James Dean. Thank you, Emerson and Bowie, for my dreams. Wilfred Owen, Kinsey, Whitman and Rambo. Thank you, Warhol. Thank you, Patience. Thank you, Porter and Copter.
Du CM2 de l'école Maurice Thérèse A.
Notre maîtresse s'appelle Laure Chopti.
Bonjour, je m'appelle Élise.
Bonjour, je m'appelle Simon.
Bonjour, je m'appelle Ethan.
Bonjour, je m'appelle Samy.
Bonjour, je m'appelle Alexis.
Aujourd'hui, c'est le jeu de la semaine.
Et nous vous proposons un nouveau personnage mystérieux.
Ethan, peux-tu nous rappeler la règle de ce jeu?
Bien sûr, nous allons vous proposer des indices.
Du plus difficile au plus facile.
Notez bien vos indices sur votre grille de jeu.
Il y en aura 5.
Bonne chance à tous!
C'est le personnage mystérieux.
Indice numéro 1. Notre premier indice indique la date de naissance et la date à laquelle est mort notre personnage mystérieux. Il est né à Paris en 1613 et il est mort aussi à Paris en 1700. Notre personnage mystérieux était donc français et a vécu 87 ans. Je répète. Notre premier indice indique la date de naissance et la date à laquelle est mort notre personnage mystérieux. Il est né à Paris en 1613 et il est mort aussi à Paris en 1700. Notre personnage mystérieux était donc français et a vécu 87 ans.
Deuxième indice indique les collaborateurs de notre personnage mystérieux. Notre personnage mystérieux a travaillé avec des personnes comme Louis Leveau ou Charles Lebrun. Les auditeurs, vous connaissez le métier de Charles Lebrun? Eh bien, il était peintre. Je répète, notre deuxième indice indique les collaborateurs de notre personnage mystérieux. Notre personnage mystérieux a travaillé avec des personnes comme Louis Leveau ou Charles Lebrun.
Thank you.
Indice numéro 3. Notre troisième indice va vous indiquer cette fois-ci le métier de notre personnage mystérieux. Si Charles Lebrun était peintre, notre personnage mystérieux, lui, a été dessinateur de jardins et architecte français. Je répète, notre troisième indice va vous indiquer cette fois-ci le métier de notre personnage mystérieux. Si Charles Lebrun était peintre, notre personnage mystérieux, lui, a été dessinateur de jardins et architecte français.
Notre personnage fut l'auteur de nombreux jardins à la française. Le jardin à la française est un style de jardin qui apparaît en France au milieu du XVIe siècle, inspiré du jardin italien. Les parterres sont réguliers et s'organisent de façon symétrique les uns par rapport aux autres. Ils sont construits à partir de figures géométriques comme les carrés, triangles, ronds, demi-cercles. Je répète, notre personnage fut l'auteur de nombreux jardins à la française. Le jardin à la française est un style de jardin qui apparaît en France au milieu du XVIe siècle, inspiré du jardin italien. Les parterres sont très réguliers et s'organisent de façon symétrique les uns par rapport aux autres. Ils sont construits à partir de figures géométriques comme les carrés, triangles, des ronds, demi-cercles. C'est notre dernier indice. Il va vous indiquer quels sont les travaux célèbres de notre personnage mystérieux. Il a conçu l'aménagement de parcs et de jardins très connus, comme celui de Vaux-le-Vicomte ou celui de Chantilly. Mais le plus connu des châteaux dont il s'est occupé, c'est bien sûr celui de Versailles. Je répète, c'est notre dernier indice. Il va vous indiquer quels sont les travaux célèbres de notre personnage mystérieux. Il a conçu l'aménagement du parc et des jardins très connus comme celui de Vaux-le-Vicomte ou celui de Chantilly. Mais le plus connu des châteaux dont il s'est occupé, c'est bien sûr celui de Versailles.
Radio Cartable. Nous espérons que vous êtes prêts à jouer avec les CM1A de l'école Torres B au
bateau mystérieux.
Aujourd'hui, avec Yasmine, Zakaria et Evangélie, nous vous avons préparé quelques devinettes. Car aujourd'hui, il va falloir deviner le nom de chacun de ces 6 bateaux en écoutant bien leurs devinettes.
Si vous n'avez pas votre grille de jeu, écoutez bien Evangélie qui va vous redonner les noms de bateaux mystérieux.
Vous devrez reconnaître l'Hermione, le Mayflower, le Titanic, le Black Pearl, le Luxor et la Santa Maria. Je répète, vous devrez reconnaître l'Hermione, le Mayflower, le Titanic, le Black Pearl, le Luxor et la Santa Maria.
Merci Evangélie. On écoute tout de suite Yasmine pour la devinette numéro 1.
Écoutez bien cette devinette numéro 1. Je suis une caravelle de 25 mètres de long. Avec Christophe Colomb, j'ai traversé l'Atlantique en 72 jours en 1492 pour découvrir l'Amérique. J'ai malheureusement disparu en mer au mois de décembre de la même année. Je répète, je suis une caravelle de 25 mètres de long. Avec Christophe Colomb, j'ai traversé l'Atlantique en 72 jours en 1492 pour découvrir l'Amérique. J'ai malheureusement disparu en mer au mois de décembre de la même année.
Je répète,
je suis une caravelle de 25 mètres de long. Avec Christophe Colomb, j'ai traversé l'Atlantique en 72 jours en 1492 pour découvrir l'Amérique. J'ai malheureusement disparu en mer au mois de décembre de la même année. Je répète, je suis une caravelle de 25 mètres de long. Avec Christophe Colomb, j'ai traversé l'Atlantique en 72 jours en 1492 pour découvrir l'Amérique. J'ai malheureusement disparu en mer au mois de décembre de la même année.
On écoute maintenant la devinette numéro 2 présentée par Évangélie.
Voici la devinette numéro 2. Je suis un vaisseau marchand de 28 mètres de long. En 1620, j'ai transporté depuis le port de Plymouth une centaine de colons. Ces familles de colons se sont installées près de Boston. Ce sont les fondateurs des futurs États-Unis d'Amérique. Je répète, je suis un vaisseau marchand de 28 mètres de long. En 1620, j'ai transporté depuis le port de Plymouth une centaine de colons. Ces familles de colons se sont installées près de Boston. Ce sont les fondateurs des futurs États-Unis d'Amérique.
C'est au tour de Zacharia de nous présenter la devinette numéro 3.
D'accord, Yasmine. Écoutez bien cette devinette numéro 3. Je suis un bateau de 3 mâts à fond plat fabriqué à Toulon. Pour un seul voyage, j'ai servi à transporter l'obélisque depuis les rives du Nil jusqu'à Paris et la place de la Concorde. J'ai traversé la mer Méditerranée et remonter l'océan Atlantique dans un voyage qui a duré plus de 2 ans. Je répète, je suis un bateau de 3 mâts à fond plat fabriqué à Toulon. Pour un seul voyage, j'ai servi à transporter l'obélisque depuis les rives du Nil jusqu'à Paris et la place de la Concorde. J'ai traversé la mer Méditerranée et remonté l'océan Atlantique dans un voyage qui a duré plus de 2 ans.
Je me rappelle bien de cette histoire, Zacharia. J'espère que nos auditeurs aussi. La devinette numéro 4 est beaucoup plus facile. Écoutez bien, Gabriel.
Voici la devinette numéro 4. Je suis un paquebot transatlantique long de 269 mètres. J'ai effectué ma première et dernière sortie en mer le 12 avril 1912. J'ai fait naufrage en heurtant un iceberg avec 1500 de mes passagers. Je répète. Je suis un paquebot transatlantique long de 269 mètres. J'ai effectué ma première et dernière sortie en mer le 12 avril 1912. J'ai fait naufrage en heurtant un iceberg avec 1500 de mes passagers.
Thank you.
la plus facile, Gabriel. On va voir si nos auditeurs se rappellent aussi bien la devinette numéro 5. On écoute Évangélie.
Devinette numéro 5. Je suis la frégate qui a conduit le général de Lafayette en 1780 aux États-Unis d'Amérique. Lafayette voulait aider les Américains à se libérer des Anglais. J'ai été reconstruite à l'arsenal de Rochefort et je navigue à nouveau en ce moment. Je répète. Je suis la frégate qui a conduit le général de Lafayette en 1780 aux États-Unis d'Amérique. Lafayette voulait aider les Américains à se libérer des Anglais. J'ai été reconstruite à l'arsenal de Rochefort et je navigue à nouveau en ce moment.
Merci Évangélie, c'est déjà notre dernière devinette que nous présente Gabriel. Mais si vous ne vous êtes pas trompé, vous avez certainement déjà deviné le nom du sixième bateau mystérieux.
Voici enfin cette devinette numéro 6. Je suis un voilier pirate de cinéma long de 40 mètres. Je navigue avec le capitaine Jack Sparrow dans les mers des Caraïbes, où j'ai vécu de nombreuses aventures. Je répète. Je suis un voilier pirate de cinéma long de 40 mètres. Je navigue avec le capitaine Jack Sparrow dans les mers des Caraïbes, où j'ai vécu de nombreuses aventures.
Nous sommes la classe de CM1A de l'école Maurice Thorez.
Bienvenue dans notre jeu.
Nous avons préparé des devinettes.
En classe, nous avons fait des exposés sur les animaux en mode disparition.
Par groupe, on a fait 12 animaux.
Nous allons vous donner de plus en plus d'indices pour que vous deviniez. Alors,
dotez-vous de vos dictionnaires,
de bestiaires
et téléchargez notre questionnaire.
Amusez-vous bien!
La première devinette est préparée par Liam et Eliana.
Jeu numéro 1. Je suis un mammifère carnivore, c'est-à-dire qui mange de la viande. Je vis dans les forêts, en plaine et en montagne. J'habite dans une tanière et je chasse souvent en meute. J'appartiens à la famille des canidés.
J'ai une fourrure qui peut être de différentes couleurs, par exemple grise, blanche ou marron. Je mesure environ 70 cm de hauteur au garrot et 1,50 m de long. Je suis très résistant et je peux courir sur de longues distances. Dans les histoires, on trouve que j'ai des grandes dents et j'ai souvent des problèmes avec les chasseurs.
J'ai beaucoup été chassé en France et j'ai longtemps disparu de nos forêts. Depuis 1990, je suis peu à peu revenu en passant par les cols des montagnes, des Alpes et des Pyrénées. Avec mes compagnons, nous sommes maintenant plus de 600 en France, mais de nombreux bergers voudraient encore nous chasser. Heureusement, nous sommes maintenant protégés et les bergers sont indemnisés lorsque nous attaquons un de leurs moutons. Qui suis-je ?
Thank you.
Bonjour, je m'appelle Elika.
Voici notre animal mystérieux.
Jeu numéro 2.
Je suis un drôle de petit poisson qui n'a pas d'écailles. Je peux mesurer de 3 cm à plus de 30 cm, mais je ne pèse généralement qu'une quinzaine de grammes. Dans ma famille, c'est le mâle, et non la femelle, qui donne naissance à des petits vivants. Une centaine à chaque fois.
J'habite en mer, dans les eaux chaudes et tempérées, mais je ne nage pas très bien. Je préfère me reposer en m'accrochant aux algues, grâce à ma queue. Je me nourris de petits crustacés, d'œufs de poissons, de larves et de plancton. On m'appelle aussi le petit cheval de mer. Ma famille nombreuse et moi sommes en grand danger de disparition à cause du réchauffement climatique, de la pollution marine et de la surpêche.
Chaque année, des braconniers tuent plus de 20 millions de mes compagnons des océans. Certains sont revendus pour fabriquer des remèdes en poudre dans la médecine traditionnelle chinoise. D'autres sont séchés en plein soleil pour servir de porte-bonheur aux touristes en Asie. D'autres encore sont capturés vivants pour décorer des aquariums. C'est horrible!
Heureusement, de nombreux pays, comme la France, protègent mon habitat, c'est-à-dire le bord de mer où j'habite, et interdisent mon commerce.
Qui suis-je?
Bonjour, je m'appelle Faisal et je vous présente notre devinette.
J'ai numéro 3.
Mon animal est un mammifère de l'espèce des félins, c'est-à-dire de la famille des chats. Il peut mesurer jusqu'à 1,90 m de long et peser jusqu'à 110 kg. Mon animal habite en Amérique du Sud et en Amérique centrale, dans les forêts tropicales. Mais on peut aussi le trouver dans les montagnes des Andes ou dans la savane.
Il est carnivore, c'est-à-dire qu'il chasse des proies pour se nourrir comme des singes, des poissons ou d'autres petits félins.
Il est agile et puissant. Il peut même attaquer des proies qui font deux fois sa taille.
Son nom signifie « celui qui tue en un seul bond ».
Mon animal a un pelage jaune tacheté de noir et ses oreilles sont rondes et noires. Il a des pattes courtes et des griffes rétractiles. Il adore jouer dans l'eau.
Malheureusement, sa vie est maintenant menacée à cause de la déforestation de son habitat, c'est-à-dire de la destruction des forêts où il habite.
Il est aussi chassé par des braconniers, alors que cela est interdit.
Plus de 80% des animaux de sa famille ont disparu en 15 ans.
Pour l'aider, les pays d'Amérique du Sud doivent mieux surveiller les trafiquants qui brûlent illégalement les forêts ou les braconniers qui le chassent en cachette.
Mais qui est donc mon animal en danger ?
Qu'on allait écouter trois autres devinettes. Mieux vaut les écouter maintenant.
Alors, reprenez votre questionnaire et 1, 2, 3, jouez!
Nicolas.
Et moi, Safa.
Voici notre devinette.
Jeu numéro 4.
Je suis un drôle d'oiseau qui ne vole pas mais qui nage très bien. Je mesure environ 1m20 et je pèse entre 20 et 40 kilos. J'habite dans l'hémisphère sud sur le continent Antarctique. J'adore manger des sardines et des anchois, des crevettes et du krill.
J'ai un long bec jaune, un petit cou, un long corps allongé noir et blanc avec des plumes imperméables. Je vis en colonie avec une famille très nombreuse et on prend tous soin les uns les autres en surveillant nos œufs.
Malheureusement, les hommes ont beaucoup volé nos œufs. À cause du réchauffement climatique et de la fonte des glaces, il est de plus en plus difficile de trouver de quoi manger sur la banquise et des endroits tranquilles pour pondre et élever nos petits qui sont tout gris.
Si la température de notre planète continue à augmenter et la banquise à fondre, les scientifiques craignent que 80% de ma famille disparaisse avant la fin du siècle. Si je suis donc en danger d'extinction.
Qui suis-je ?
Je suis Raphaël.
Et moi, Maëlle. Nous allons vous présenter notre devinette.
Je suis numéro 5.
Nous faisons partie de la famille des insectes et nous vivons toujours en famille nombreuse, c'est-à-dire avec plus de 10 000 autres insectes dans notre maison qui s'appelle un essaim.
Notre habitat peut être naturel, par exemple en haut d'un arbre ou dans un creux, mais nous pouvons aussi nous installer dans une petite maison préparée par un apiculteur.
Nous nous nourrissons en dégustant le nectar et le pollen des fleurs, mais nous sommes très travailleuses. Nous en rapportons dans notre maison, la ruche, pour fabriquer un délicieux nectar et du miel.
Nous sommes très utiles, car en volant, nous déplaçons le pollen des fleurs un peu partout et cela permet à toutes les plantes de se reproduire et d'avoir des fruits que vous mangerez.
Nous sommes très organisées dans notre ruche. Certaines s'occupent de la reine, d'autres nettoient, d'autres s'occupent des larves, c'est-à-dire des bébés. Tout allait bien jusqu'au moment où les humains ont dérangé la nature.
Nous sommes en grand danger à cause des pesticides que les agriculteurs ont répandus dans les champs.
Cela empoisonne tous les insectes, et nous en particulier, car cela perturbe notre façon de communiquer entre nous.
Un nouvel ennemi nous menace aussi en attaquant et volant nos ruches, c'est le frelon asiatique.
Pour nous aider, il faut laisser les plantes pousser sans engrais ni pesticides dans la nature. Pour convaincre les agriculteurs, il faut que les lois interdisent ces produits toxiques. Si nous disparaissons, il n'y aura bientôt plus de plantes pour vous nourrir, vous les humains.
On peut aussi semer des fleurs partout, même en ville, et nous installer des ruches sur les toits. Savez-vous qu'à Ivry, notre apiculteur a réussi à fabriquer du miel ?
Mais qui sommes-nous donc ?
Bonjour, je m'appelle Tommy.
Bonjour, je m'appelle Shaina. Et voici notre devinette.
Jeu numéro 6.
C'est un mammifère qui appartient à l'espèce des félins. Il est rapide et il saute très bien. Sa fourrure est rousse ou brune. Il ressemble à un gros chat. Il a des oreilles pointues avec des sortes de pinceaux noirs aux extrémités. Son poids est de 10 à 20 kilos. Il peut faire 1,5 m de longueur. Lorsqu'on voit très bien, on dit qu'on a des yeux comme un animal.
Il a une queue très courte et ses pattes sont larges et allongées. Elles lui servent de raquettes et de chaussons pour se déplacer sans bruit. Mon animal habite dans les forêts boréales, c'est-à-dire les forêts froides.
Il peut parcourir un territoire de plus de 100 km et il chasse surtout les chevreuils et des chamois pour se nourrir. Il ne reste que 9000 animaux de cette famille pour toute l'Europe et moins de 200 en France, ce qui n'est pas suffisant pour les empêcher de disparaître. Mon animal est donc en danger en France où il n'a pas assez de territoire pour chasser, vivre et se reproduire en sécurité.
Pour le protéger, la loi française interdit de la chasser et a réintroduit mon animal dans les régions françaises comme les Vosges, le Jura et les Alpes.
Réintroduire des animaux, cela veut dire en capturer dans un autre pays et les installer dans une forêt française en les surveillant à distance pour que tout se passe bien. Mais quel est donc notre animal ?
Mais on sait qu'on ne vote qu'à partir de 18 ans, l'âge de la majorité.
À 18 ans, on devient adulte et on a le droit de vote.
Comme on a 9 ans, il faut encore attendre 9 ans pour atteindre la majorité.
Mais pourquoi les enfants ne votent pas?
S'ils votaient, peut-être qu'ils voteraient au hasard.
À 9 ans, on n'est pas encore mature,
non.
Et pourtant, les enfants aussi votent dans leurs écoles pour l'élection des délégués.
D'ailleurs, on peut imaginer qu'il y aurait des délégués de délégués par niveau. Par exemple, pour les CE2, CM1, CM2 dans l'école.
Ces délégués de délégués seraient comme des maires ou des ministres pour l'école qui serait comme les pays des enfants.
Et si ce n'était pas seulement imaginaire ?
En primaire, les délégués de classe sont réunis au conseil des délégués.
Au collège, les délégués participent au conseil de classe au moment où tout le monde réfléchit autour des bulletins scolaires de chaque élève. Ils ou elles participent également au conseil de vie collégienne.
Au lycée, les délégués participent au conseil de classe à 3 assemblées au niveau du lycée. Une au niveau de l'académie et 2 au niveau national.
Attention, c'est bientôt l'heure du prix qu'il a lu.
Et justement, le dernier roman parle de l'entrée au collège.
Nous sommes la classe de CM1A de l'école Maurice Thorez.
Bienvenue dans notre jeu.
Nous avons préparé des devinettes.
En classe, nous avons fait des exposés sur les animaux en mode disparition.
Par groupe, on a fait 12 animaux.
Nous allons vous donner de plus en plus d'indices pour que vous deviniez.
Alors,
dotez-vous de vos dictionnaires,
de bestiaires
et téléchargez notre questionnaire.
Amusez-vous bien!
Jeu numéro 7
de Léna et Ismaël.
Voici notre animal mystérieux.
Notre animal habite dans tous les océans de notre planète. Il fait partie de la famille des poissons et de l'espèce des squales. Il peut mesurer de 4 à 6 mètres de long. Il peut peser de 700 kg à 2 tonnes. Sa peau est de couleur blanche et c'est un excellent nageur.
C'est un poisson carnivore qui mange d'autres gros poissons, des tortues, des phoques et des dauphins. On dit que c'est le plus grand prédateur des océans. Il possède une mâchoire impressionnante avec une cinquantaine de dents acérées en forme de triangle.
Notre terreur des océans aime s'approcher des côtes et des plages. Il confond parfois les baigneurs ou les surfeurs avec ses proies et peut les attaquer par erreur. Un célèbre film, Les Dents de la Mer, présente notre animal comme un tueur des mers. Mais ce n'est pas vrai dans la réalité.
Notre animal est également en danger à cause des activités des humains. Il a plus de mal à trouver ses proies dans les océans car il y a moins de poissons. Les pêcheurs chassent notre animal pour sa viande, ses dents et ses ailerons. La population de notre animal a donc beaucoup baissé et il est maintenant interdit de le pêcher.
Qui est donc notre animal ?
Voici Nathan et Sarah qui vont vous présenter leur animal.
En danger.
Jeu numéro 8.
Mon animal est un petit mammifère. Il appartient à la famille des rongeurs. Sa taille est entre 70 et 90 cm et il peut peser jusqu'à 30 kg. Il vit au bord des cours d'eau dans des régions froides comme au Canada ou en Russie, mais on le trouve aussi en Europe.
Il creuse un terrier au bord de l'eau
avec un accès sous-marin pour être en sécurité avec sa famille. Il mange des plantes herbacées, des fruits et il adore les écorces de saule.
C'est un animal à la fourrure brune avec une longue queue plate qui l'aide à se diriger quand il nage sous l'eau. Il a de longues et solides dents jaunes qui lui permettent de ronger du bois pour fabriquer des barrages, c'est-à-dire des murets de bois dans la rivière.
Malheureusement, mon animal a beaucoup été chassé pour sa fourrure qui est très chaude et très douce, mais aussi pour une substance qu'il produit, le castoreum. Cette substance qui ne sent pas très bon est transformée et utilisée pour fabriquer des parfums. En France, sa population a donc beaucoup diminué.
Pour le protéger, sa chasse est maintenant interdite et on préserve les bords de rivière pour qu'il puisse se réinstaller. Grâce à mon animal, la biodiversité revient sur les berges des rivières, c'est-à-dire que de nouvelles espèces animales et végétales s'installent à nouveau.
Avez-vous reconnu mon animal ?
Bonjour, je m'appelle Kélana.
Bonjour, je m'appelle Flavio.
Je numéro 9.
Je suis un grand mammifère de la famille des ours. Je mesure de 1m50 à 1m80. Je pèse de 75 à 130 kg.
J'habite dans des forêts humides au centre de la Chine.
Je mange surtout des végétaux et j'adore le bambou. Je peux en dévorer jusqu'à 20 kg par jour. Ma fourrure est de couleur noire et blanche et mes mains ont un sixième doigt qu'on appelle faux pouce.
C'est très pratique pour attraper des bambous.
Mon espèce est en voie de disparition à cause de la déforestation de mon habitat, c'est-à-dire la destruction des forêts où j'habite.
J'ai aussi beaucoup de mal à me reproduire.
En liberté comme en captivité, car cela n'est possible que quelques jours par an. Heureusement, je suis très protégée depuis de nombreuses années par le gouvernement chinois. Tu peux admirer des membres de ma famille au zoo de Beauval, en France. Ils ont été prêtés par la Chine à la France. Deux bébés sont nés il y a quelques mois et ils sont en pleine forme.
Qui suis-je ?
à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère-Marie Marchand. Et nous allons parler d'un sujet de toute actualité, puisqu'il s'agit des prix littéraires, avec un livre qu'a publié Arnaud Vivian aux éditions La Fabrique, Station Goncourt, 120 ans de prix littéraires. Arnaud Vivian, on ne pouvait pas mieux tomber, puisqu'aujourd'hui, je crois qu'on décerne le prix Nobel de littérature. Et vous arrivez juste à ce moment-là, pour parler de votre livre. Donc on peut pas mieux faire. Et c'est vrai que c'est un livre de toute actualité.
Oui, tout à fait. Là, on est dans la saison des prix, seront décernés en France au mois de novembre, pour la plupart. Et donc qui viendront terminer une séquence qu'on appelle la rentrée littéraire, qui commence fin août et qui donc s'achève en novembre.
Et s'achève en novembre. Alors bon, votre livre, vous dites, c'est un format court. Vous dites que les livres sur les prix littéraires ne sont jamais très longs. Lorsqu'on choisit ce sujet, il y a de la crainte. Si les livres sur les prix littéraires ne sont jamais très longs, c'est parce qu'aussi ils sont gênés aux entournures. C'est un livre court, presque un livre de poche. Je dirais presque un élixir de, pas de jouvence, mais un élixir où on réfléchit sur l'actualité littéraire, la vitesse de l'actualité littéraire, avec ce titre Station Goncourt. Est-ce que vous avez été tenté, parce que l'autre fois je vous avais reçu Arnaud Vivian pour un roman, est-ce que vous avez été tenté finalement de... Il y a un côté balzacien dans ce livre. Est-ce que vous avez tenté à un moment donné d'en faire un roman? Vous auriez pu en faire un roman finalement?
La fin ressemble un peu à un roman. C'est un essai qui se termine comme un roman. Et qui d'ailleurs, lorsqu'on arrive dans les deux dernières pages, on comprend pourquoi ce livre s'appelle Station Goncourt. C'est expliqué donc à la fin, une fin réelle. Hein. Ce sont des faits réels, mais quand même très romanesque, un romanesque d'ailleurs dramatique, un romanesque triste. Et oui, j'ai voulu faire un livre court d'abord parce que, comme vous le savez, les gens n'ont pas le temps de lire.
Oui.
Tout simplement, ils sont pris dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention, attirés par des séries télévisées, toute autre sorte de loisirs, les jeux vidéo, peu importe. Donc le temps de lecture diminue pour chacun d'entre nous d'ailleurs, et donc je voulais faire un livre court, et puis le sujet ne mérite pas non plus tant d'égards. Les prix littéraires, c'est une comédie humaine avec une foire aux vanités qui fait que on n'a pas envie non plus de s'apesantir sur cette chose, et en même temps je trouvais qu'il y avait matière à réflexion puisque à travers la séquence des prix littéraires se révèle d'abord une histoire littéraire fondée à travers ces prix, à partir de la naissance du prix Goncourt en 1903. On a une histoire littéraire qui commence à s'articuler autour de la notion de prix, et le Nobel date lui de 1901, donc c'est deux ans avant le prix Goncourt. D'ailleurs, le prix Goncourt aurait dû commencer en 1901, mais il y a eu un problème avec les héritiers des frères Goncourt, qui fait qu'il y a eu une action en justice, parce qu'ils n'avaient pas trop envie, les héritiers des frères Goncourt, qui étaient immensément riches. Et eux avaient décidé de spolier, entre guillemets, leur famille, et de dire, cet argent va à la littérature et cet argent va financer donc ce qu'ils appelaient la Société des Goncourt, dont le but était d'abord de financer 10 écrivains qui étaient mensualisés sur